Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. C'est sur les hauteurs de la vallée du Dourdou que Guillaume nous accueille aujourd'hui pour nous présenter la ferme des Trois Pastres. Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Donc voilà, moi je suis Guillaume Bouissou, j'ai 43 ans, je suis en couple marié, j'ai 3 enfants, voilà, installé donc agriculteur sur l'exploitation familiale que j'ai repris en 2007, donc depuis 2007, ça fait 14 ans que j'exerce ce métier, donc je travaille avec mon épouse au sein de GAEC, voilà, qui se prénomme le GAEC des Trois Pastres.
Des Trois Pastres, sur la commune de
Calmel-Selleviala.
Calmel-Selleviala.
15 km de Saint-Afrique. Voilà.
Ok. Donc c'est un GAEC, il y a que ta compagne et toi ?
Voilà.
Que ta femme et toi ?
Donc jusqu'en 2014, on était associés avec mon papa et mon frère. Puis mon papa a pris la retraite en 2014. 2016, après en suivant, mon frère, pour des raisons plus personnelles, pour rejoindre sa compagne en dehors du département, a quitté la structure. Et donc après, à partir de 2017, ma femme a intégré le GAEC et donc on était anciennement à trois et maintenant on se retrouve à deux.
D'accord.
Et on a gardé la main d'un point de vue familial et on souhaite conserver cette structure familiale, quoi, voilà.
Et pourquoi avez-vous choisi le système du GAEC ?
Alors le système du GAEC, c'est une structure juridique qui est très connue au niveau des exploitations agricoles, qui permet de nous faire bénéficier notamment davantage au niveau des aides prime PAC de l'Europe, quoi. Ça nous permet de pouvoir en bénéficier un peu plus, quoi, on va dire, de ces aides. Et c'est une structure qui est assez facilitatrice, je dirais, de l'exploitation d'une ferme, quoi, voilà.
Cette ferme, vous avez combien d'hectares sur la ferme ?
Alors la ferme, elle se compose de 85 hectares SAU, comme on dit dans notre jargon, surface agricole utile. Donc ça, c'est les terres qu'on exploite. Elles sont en totale propriété, en appartenance à mon papa. Je les loue donc à mon papa. Ensuite, sur l'exploitation, on a donc un troupeau de brebis laitières historiquement qui est d'environ 300-320 brebis, quoi, que l'on exploite. Aujourd'hui, le lait, depuis 3 ans, est vendu en totale autonomie. On est en vente directe, complète, sur le lait de brebis. On est associé avec 5 autres GAEC, comme nous, qui sont plus basés sur la zone de Belmont-sur-Ance-Combrette. Et on commercialise par nous-mêmes tout le lait de brebis, quoi, voilà. On a repris la main sur la commercialisation de notre lait de brebis. Et donc, il est commercialisé à plein d'artisans en France. Petite structure artisanale qui fabrique des fromages au lait de brebis. Voilà.
Tu sais en quoi il est transformé après.
Mais voilà, oui, on connaît très bien nos clients puisqu'on est en direct avec eux, 100% en vente directe. Voilà.
Donc tu me dis 80 hectares à peu près ?
85 hectares, oui.
D'un seul tenant ?
D'un seul tenant, tout est sur la même zone géographique. On n'a qu'un seul siège d'exploitation. Donc ça, c'est vrai que des fois, souvent, dans les présentations ou autres à des stagiaires, je tiens un peu à cette exclusivité. Mais aujourd'hui, sur la commune, je suis un des seuls et derniers agriculteurs qui n'a qu'un seul siège d'exploitation.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, les modèles agricoles ont évolué et ont fait que les agriculteurs ont dû s'agrandir pour subvenir à leurs besoins. Et nous, on a fait des choix peut-être inverses. Enfin, on a réussi à conserver qu'un seul site d'exploitation, de vivre avec 85 hectares, 320 brebis laitières, et en complément, depuis 2007, lors de mon installation, on a fait le choix de partir sur une production d'engraissement de porc fermier sur paille, alimenté sans OGM par des céréales de la ferme et que j'achète à des voisins, quoi, voilà. On fabrique toute l'alimentation nous-mêmes. Et on est parti dans ce concept de produire des porcs, de les transformer ensuite sur l'exploitation et de les vendre en vente directe, voilà.
Et quelle est la plus grosse part de votre activité ?
J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on se positionne d'un point de vue chiffre d'affaires, c'est la partie vente de porc et transformation des cochons qui a pris le pas sur le lait de brebis. Maintenant, les deux productions fonctionnent bien en synergie et on va dire que c'est un peu la technique de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc du coup, on jongle un peu avec une ou l'autre des productions selon les conjonctures, selon les années, et on s'en sort plutôt bien comme ça. Quoi, voilà.
Donc toi, tu es né dans l'agriculture. Tes parents étaient agriculteurs déjà ?
Alors non, moi je suis un peu un mix de tout ça.
D'accord.
À reprendre l'exploitation familiale, au départ c'était pas mon choix premier parce que j'étais l'aîné de la fratrie et mes frères, je m'étais dit j'ai du temps, va rouler ta bosse un peu sur l'extérieur, fais un peu salarié, vois ce que ça amène, de l'expérience, des rencontres, et tu seras toujours à temps de revenir sur la ferme. Mais j'avais dès le départ fait des études agricoles parce qu'on était aussi passionnés par cette...
Les trois frères sont intéressés dans l'agriculture.
Et bien en fait, les trois frères ont trempé dans l'agriculture. Donc mon frère avec qui j'étais installé le dernier donc, a quitté la structure en 2016. Mais bon, il a fait un bout de sa vie agriculteur. Et là, aujourd'hui, il est dans le département de l'Aude. Et il est sur un projet de reprise d'exploitation à son compte. Enfin, il redémarrerait une activité de son propre côté, quoi, voilà. Mmh. Pareil, sur une petite structure en vente directe, donc c'est en train de se finaliser. Et j'ai mon autre frère qui, lui, a touché à l'agriculture aussi. Et aujourd'hui, il a légèrement dérivé, mais il est dans un métier qui touche vraiment de très près l'agriculture. Il est ce qu'on appelle un marchand de bestiaux, anciennement, un maquignon, quoi, voilà. Il négocie... les bêtes.
Et le nom de la ferme vient-il du fait que vous soyez une fratrie de trois, les trois pastres ?
Oui, en fait, les trois pastres, c'est venu au départ quand on a monté la structure avec mon papa et mon frère. On était trois dès le départ. Et ici, c'est une ferme où, bon, historiquement, il y a toujours eu des brebis. Et qui dit brebis, dit berger, amener les brebis au champ, surveiller le troupeau. Donc après, avec le dialecte occitan, naturellement, avec des trois pastres.
Et voilà. Et alors, toute votre production, vous la vendez comment ? Donc tu me dis, le lait, t'es en vente directe par un réseau que vous avez monté vous-même. La viande, la charcuterie, c'est...
Eh bien alors, la viande et la charcuterie, depuis le départ, on s'est essayé à la vente directe, hein, quand on a monté cette production en 2007. Et donc aujourd'hui, on est 100% en vente directe, parce que dès le départ, on a monté la filière pour en vente directe. Et depuis 3 ans maintenant, on a trouvé des confrères avec qui s'associer et on a quitté le système Roquefort classique et on vend notre lait de brebis en direct. Quoi, voilà.
Et sur le cochon, vous faites tout ? Vous l'abattez ? Vous le conditionnez ?
Alors au niveau du cochon, moi déjà, ce qu'il faut noter, c'est que je ne suis pas naisseur. Donc en fait, je n'ai pas de truie, je ne fais pas naître les petits cochons. Mmh. Pour ça, j'ai un partenaire entre guillemets particulier qui est sur le Larzac, qui s'appelle Franck Berthomieux, avec qui je travaille, qui lui fait que cette activité-là, il fait naître des porcelets, et après il en garde une partie pour lui et il vend son surplus. Et donc on a passé un partenariat comme ça entre nous, où c'est lui qui me fournit, tous les cochons viennent de chez lui, donc voilà, mes cochons proviennent de là-haut, donc je les reçois à un poids de 30 kg, et je les engraisse jusqu'à un poids de 130 kg à peu près. Donc en fait, bon an mal an, il y a 100 kg de poids vif qui sont pris sur l'exploitation, en engraissement, sur paille, et donc avec une alimentation qui est totalement maîtrisée, puisque c'est nous qu'on la fabrique par l'intermédiaire d'une fabrique d'aliments à la ferme qu'on appelle. Et donc c'est nous qu'on fabrique donc la farine de nos cochons, on sait ce qu'on met dedans. Il n'y a pas d'OGM et on maîtrise complètement la chaîne. Ils sont amenés à l'abattoir de la Combe, à 40 km d'ici. Donc toute la partie abattage est sous-traitée via un tiers qui est la société des abattoirs de la Combe. Donc là, c'est difficile aujourd'hui de faire différemment parce que c'est une partie qui est quand même assez technique, assez compliquée, et il faut des équipements spécifiques.
Et niveau sanitaire et tout.
Voilà, on ne pouvait pas se permettre d'investir dans une petite tuerie rien que pour les cochons qu'on passe. Maintenant, je sais qu'il y a un gros débat qui revient à me faire de lance pas mal aujourd'hui dans la société, c'est les abattages en ferme avec des tueries mobiles, quoi. Ils arrivent avec des camions, ils peuvent faire des abattages en ferme pour notamment limiter les transports et le stress des animaux. C'est aussi dans ce but-là. Donc en fait, donc on sous-traite l'abattage, c'est sur la Combe. Et alors après, les cochons, une fois abattus et sont rapatriés en carcasse dans mon atelier de découpe qu'on a sur la ferme depuis 2012. D'accord. Donc on a monté un bâtiment dans lequel on fabrique toutes les charcuteries, que ce soit de la conserve, du produit frais sous vide, en passant par les salaisons type jambon, saucisse, saucisson, et après toutes les charcuteries type pâté, rillettes, tout ce genre de produits. Quoi, voilà.
Ouais, ça y est, j'ai encore fait. Et comment tu le vends, le cochon ?
Alors aujourd'hui, les réseaux de commercialisation, donc c'est 100% direct.
C'est nous sur le marché.
C'est nous qu'on traite en direct avec nos clients. Donc moi, mes réseaux principaux réseaux, c'est le marché de Sainte-Afrique tous les samedis matin. On est présent depuis 2007, depuis le début, quoi. D'accord. 14 ans qu'on fait le marché. Ensuite, je le vends un peu par des réseaux épiceries. Donc, j'ai principalement deux épiceries avec qui je travaille très bien. C'est l'épicerie Del País de Sainte-Afrique et une petite épicerie dans la vallée de la Sorgue, Monsieur Belaymet à Saint-Félix-de-Sorgue, qui me prend du porc. Et après, une bonne partie de mes débouchés se situe en périphérie de Montpellier. Et puis, je me suis surtout intégré sur la ville de Montpellier et des villes limitrophes à Montpellier de par le réseau des boutiques paysannes, c'est-à-dire de la vente en magasin de producteurs. Donc, c'est des collectifs d'agriculteurs qui se montent en association pour vendre leurs produits en commun sur un même point, quoi.
D'accord.
Donc, en fait, on mutualise les efforts. Et au bout du compte, on vend tous sous le même toit, quoi. D'accord. Donc on vend autant des légumes que d'autres types de viande, mmh. que des produits plus conservés comme des lentilles, des légumes secs ou des pâtes, voilà.
D'accord.
Via les industriels de Roquefort, mmh. ça je trouve que c'est dommageable. Mmh. Et moi aujourd'hui, si j'ai un cri du cœur à donner, c'est qu'il faut que tout jeune qui s'installe ou qui touche à l'agriculture de près ou de loin, il se pose la question d'essayer de reprendre un peu la main sur la commercialisation de ses produits. Ouais. Parce que même quand on est soumis à des grands groupes ou tout ça, qu'on va fouiller, qu'on cherche un peu, il y a toujours moyen d'avoir un peu la pression et de se dire est-ce que aujourd'hui je peux pas un peu essayer de décider du prix qui va m'être donné. Ouais. Parce que on ne peut pas subir incessamment les lois des...
De ce que j'entends dire, Lactalis, il n'y a pas trop moyen de négocier, en fait.
Mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, moi, j'étais le système il y a 3 ans encore en arrière. On attaquait une campagne laitière, on ne connaissait pas le prix de vente de notre lait. Ah. C'était à la fin de la campagne, quand on avait livré un an de production, enfin, un cycle de production, qu'on nous disait, votre lait va être payé tant. En fonction de la qualité que l'on avait fait, en fonction de pas mal de critères qui rentraient en compte dans le prix du lait, mmh. mais le prix n'était pas forcément fixé à l'avance. Alors les règles ont légèrement changé depuis 2-3 ans qu'il y a eu la réforme là, sur le paquet lait au niveau européen. Ils annoncent un prix de base en début de campagne, mais le prix définitif, ils ne le connaissent quand même qu'à la fin, parce qu'il faut enlever toutes les pénalités dues à la qualité. Fait un bonus ou malus, parce que c'est pas forcément tout le temps que du malus, il y a aussi du bonus pour ceux qui travaillaient bien quand même. Et au final, le gars, il peut se positionner sur le prix de son lait qu'à la fin, quoi. Donc comment faire un peu des prévisions, à savoir comment ça va se passer, ou anticiper certains investissements, tout ça, c'est quand même délicat. On est toujours dans l'action avec un an de décalage, quoi. C'est ce qui est dommageable, quoi.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. c'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Donc l'exploitation, elle compte un salarié temps plein sur la partie production agricole, plus un jeune que l'on a 2 jours par semaine au sein d'un groupement d'employeurs, c'est-à-dire avec les copains avec qui on a monté notre commercialisation de lait, on a créé un groupement d'employeurs dans lequel on a 3 salariés et on se le partage sur les fermes. Ça nous permet de nous libérer un peu de temps puisqu'il faut qu'on mette un peu plus d'énergie dans la commercialisation de notre lait, donc il faut qu'on passe en plus de notre travail du quotidien du temps à commercialiser notre lait. Ça veut dire des coups de fil, gérer de la logistique. Mmh. Alors ça nous génère un travail qui est complètement différent, mais qui est assez passionnant parce qu'on va au bout de la chaîne, quoi. Mmh. C'est nous qu'on discute avec le client au final. C'est nous qu'on y fait la facture aussi. Mmh. Ça, j'y tiens, mais c'est quand même important, quoi. Mmh. On est capable de donner une valeur à notre produit. Mmh. On maîtrise certains coûts de production, mais aujourd'hui, on maîtrise le prix de vente. Donc en fonction des aléas, on peut réagir par rapport au prix de vente. C'est nous qu'on est libre de faire bouger nos prix, quoi. Et après, sur la partie port, j'ai 6 salariés à temps plein, plus un intervenant extérieur qui vient m'aider une fois par semaine le jour où on découpe. Une personne, en fait, qui m'aide à la découpe. Hein. Et 3 garçons, 3 filles, donc la parité est complètement respectée. Et j'ai envie de dire que tout ça, c'est le fruit du choix qu'on a fait de commercialiser tous nos produits, de les transformer nous-mêmes. Mmh. Donc le travail de la charcuterie, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas qu'avec des machines, c'est pas totalement industrialisé.
Ouais, il te faut des compétences de boucher.
Donc
quand même.
Il me faut des compétences de boucher, donc j'ai 3 garçons de l'équipe qui ont des compétences de boucher, voilà, boucher charcutier, parce que nous c'est plutôt de la partie charcuterie, bon il y a de la découpe, ouais. Mais c'est plutôt de la charcuterie. Et puis après, c'est la passion de fabriquer tous ces produits. Il y a l'emballage, la mise sous vide, l'étiquetage, les préparations de commandes, les expéditions. Et là, j'ai aussi 3 filles donc, qui m'aident et qui collaborent complètement avec nous pour arriver à remplir tous ces rôles. Parce que voilà, ça peut pas se, on ne pourrait pas arriver aujourd'hui, nous, à faire ça seul. Alors, on a du personnel, ça se justifie face à un certain volume en face. Hein.
Alors, ce beau métier d'agriculteur, tu as 3 enfants, tu m'as dit, je crois.
Oui.
S'ils s'intéressent au métier, est-ce que tu les incites à le faire ?
Complètement.
Et si oui, tu les mets en garde sur quoi ?
Mais en fait, moi, si bon, mes enfants sont jeunes, hein, j'ai 3 enfants, donc 13, 11 et 9 ans, quoi. Ils sont assez rapprochés. J'ai 2 filles aux extrémités, un garçon au milieu. Aujourd'hui, bon, ils commencent à avoir une petite idée sur qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire plus tard. Le garçon nous parle beaucoup, oui, du métier d'agriculteur. Ça a l'air de commencer un peu à le passionner. Moi, je vais les laisser s'épanouir par eux-mêmes. Ils vivent en notre contact H24, j'ai envie de dire. Ils sont sur exploitation à chaque vacances. Donc, le métier, ils le connaissent, quoi. Enfin, ils ont déjà pu l'appréhender. Ils savent ce qu'il en ressort. S'ils ont vraiment envie de faire ça, je les empêcherai pas. Je les aiderai le plus possible pour les mettre en piste. Je pourrais transmettre ma façon de voir les choses, mais je sais qu'à chaque changement de génération, chacun y amène à sa touche personnelle, et c'est pas le moment de... Enfin voilà, on peut avoir une vision des choses, mais ne pas forcément partager tout à fait la même façon d'y arriver avec son fils ou comme ça, quoi. Et puis il faut qu'ils fassent leur propre expérience. Dans un premier temps, si jamais ils veulent rester, je souhaiterais qu'ils aillent acquérir de l'expérience en dehors de l'exploitation. C'est ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, je pense que c'est dommageable quand on revient de suite, qu'on sort de l'école, du cursus scolaire, et qu'on de suite on arrive sur la ferme. Ça, pour moi, c'est un manque d'ouverture, d'esprit, et de voir des gens, de rencontrer des gens, de se passionner pour d'autres productions.
D'autres méthodes.
Ouais. Ce qu'on fait ici, c'est pas figé, quoi. Et si on va pas voir ailleurs, on le saura pas, quoi. On le saura jamais. Donc, en fait, voilà. C'est le principal conseil que je donnerais, c'est ça. Et puis après...
C'est un beau métier, agriculteur.
Oui, je pense que c'est un beau métier. Je dis pas que c'est le plus beau métier, mais ça reste quelque chose qui est une valeur sûre, parce qu'on le voit aujourd'hui avec ce qu'on est en train de vivre, avec cette pandémie là, qui nous a un peu coupé l'herbe sous les pieds à tous. Il y a quand même des métiers qui un peu ont tiré leur épingle du jeu en se disant on a entendu parler de première nécessité, quoi. La santé, l'enseignement, il y a des choses auxquelles on ne peut pas déroger. Et si on ne l'a pas, on s'aperçoit qu'on est vite en manque. Et l'agriculture, nourrir les gens, je pense que c'est la base, quoi.
Oui.
C'est la base, quoi.
Et alors, tu as failli aborder le sujet, tu parles de l'agriculture aujourd'hui, de ce qu'elle devient. Est-ce que tu as une idée de ce qu'elle va devenir dans les années, dans les 10-20 ans ? Ne serait-ce qu'ici déjà
Alors ici moi, idéologiquement parlant, j'aimerais qu'on continue sur cette lancée dans laquelle on est parti, parce que mon papa a passé sa carrière à rester dans un système assez cloisonné, conventionnel, où on leur a dit, aujourd'hui, il vous faut partir sur cet axe, là, il vous faut faire ça, là, il faut faire ça. Ils ont toujours répondu présent, et ils ont toujours suivi un peu des directives qu'ils avaient. Aujourd'hui, j'ai un peu plus repris la main, avec un peu plus de liberté sur ce que moi, j'ai envie de faire, et de comment j'ai envie que ça devienne. J'aimerais qu'après, cette idéologie, elle puisse perdurer, parce que je pense qu'aujourd'hui, un agriculteur n'est pas plus con que mal habillé, et est capable de vendre ses produits, il est capable de mettre un prix sur la valeur de ses biens, quoi, et de les vendre, quoi, comme n'importe qui. Donc en fait, ça ne passe que par des filières dites courtes. Il faut arriver à se sortir du clivage des filières longues, c'est-à-dire des grands groupes qui dirigent un peu tout, quoi. Et ça, je suis un peu contre ce système-là, forcément.
Et tu penses qu'on tend, justement, vers les filières courtes
Et je pense que on y va de plus en plus, parce que moi, je suis installé depuis 14 ans. Et quand je me suis installé, on était très peu à faire de la vente directe. Aujourd'hui, dans la vallée du Dourdou, en partant de Vabre jusqu'à Saint-Isère, là, rien que sur ce petit tronçon de 10 km, on s'aperçoit qu'on est un peu tous de près ou de loin, mais il y a pas mal d'agriculteurs qui se sont mis à faire de la vente directe. Ou au moins, si pas toute la production, une partie de la production. Et là, je dis, il y a quand même un changement de mentalité. Ça évolue. Le Covid arrive. Il prend quoi ? Il fait qu'approfondir ce qu'on est en train de dire en disant, allez voir les agris du coin et tout, parce que voilà, c'est des valeurs sûres. Ils ne vous laisseront pas tomber. Moi, je pense qu'on t'emmerde ça. Comment ça va évoluer dans 20 ans, c'est difficile à dire. Moi, j'ai 43 ans, dans 20 ans, s'il m'arrive rien, je serai toujours dans le circuit. Enfin, je serai à la... sur le point de passer la main, mais je serai toujours dans le circuit. Mais moi, enfin, d'un point de vue local, je vais tout faire pour qu'on continue à aller sur ces filières-là. Bon, aujourd'hui, je commence à travailler un peu avec la restauration collective, avec les lycées de la ville et tout ça. Je veux dire, il y a une prise de conscience qu'il faut essayer de manger local, quoi. Le bilan carbone, pour moi, c'est déjà... quand on parle de bilan carbone, on a déjà commencé à parler de bio, quoi. Ouais. Sans forcément avoir un label, quoi. C'est-à-dire qu'on produit là, on fait très peu de kilomètres, on va vendre à côté, quoi.
Ouais. Du coup, on pollue peu.
Mais on pollue peu, tout est lié, quoi. C'est indéniable. Pour moi, c'est du bon sens, quoi. Ce qu'on appelle, voilà, du bon sens. Ouais. Et voilà, et moi je pense que l'agriculture a pris un bon virage, hein. Je suis assez confiant sur l'avenir, je suis pas du tout pessimiste. Hein. Je pense qu'aujourd'hui même nos grandes têtes pensantes européennes, ils sont en train de revoir la PAC, là, cette fameuse politique agricole commune. Hein.
C'est une qui devait être arrêtée il y a déjà pas mal.
Voilà, mais ils peuvent pas l'arrêter aujourd'hui comme ça, parce qu'on va dire que 4 agriculteurs sur 5 est complètement dépendant de ça, c'est la source de revenus de l'exploitant. Donc ils peuvent pas enrayer la machine comme ça. Maintenant ils sont en train de peut-être réfléchir à la répartition de comment ils donnent les aides.
Différemment, ouais.
Parce qu'aujourd'hui ils donnent les aides qu'aux hectares. Tout est lié à la surface. C'est ce qui fait que ça grossit les fermes. Les gens ils veulent s'agrandir pour avoir plus d'aide, quoi. Ouais. C'est devenu systématique et mathématique.
Ouais. Il n'y a presque pas besoin d'exploiter quoi que ce soit, voilà. À partir du moment où tu as des hectares.
Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, moi, on parle de répartition à l'actif, c'est-à-dire à la personne qui travaille, ou au nombre de personnes qui travaillent. Moi, j'aimerais qu'on arrive peut-être à faire une répartition aux actifs, quoi. C'est-à-dire, une ferme, elle génère combien d'emplois, et peut-être qu'après, en fonction, on peut faire une répartition en fonction du travail que ça génère, quoi. Ça veut dire que derrière, c'est une fourmilière, il y a des gens qui travaillent, et je dis pas qu'elle a besoin d'être plus aidée qu'une autre, mais voir le système de répartition, le répartir aux hectares, je pense que le système a atteint ses limites, quoi.
Après, il y en a, ils me disent aussi, sans la PAC, le prix de l'alimentation serait beaucoup plus cher, et il y aurait pas mal de gens qui pourraient pas se payer la nourriture qu'ils ont aujourd'hui, quoi.
Ouais.
Est-ce que ça fait baisser les prix ?
Alors là, on est dans un débat. Moi, je le vois pas tout à fait comme ça. Moi, je vois qu'aujourd'hui, la PAC... En ce moment, à la télé, je vois une pub qui passe sur Édouard Leclerc, qui a créé son entreprise en 82, et en fait, qui a réussi à faire baisser les prix. Mais il a fait baisser les prix de tout le monde. Les gens ne s'en rendent pas compte de ça. Il n'a pas fait baisser les prix qu'à la vente pour que tout le monde accède à l'alimentation. Il a fait baisser les prix, même à la production, et les gars, ils n'en vivent plus. Donc en fait, ce mec-là, ça a été le précurseur de... Il a fallu que la PAC arrive pour compenser les différenciations de production. Je suis désolé, mais donc il fait sa pub, là. Ça a été créé dans les années 80, et la PAC, c'est arrivé en 90, quoi, 10 ans après. Pourquoi ? Parce que les mecs, pendant 10 ans, ils n'en pouvaient plus, ils compensaient leurs revenus, puis ils s'en sortaient plus, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'agriculture, c'est quand même un des métiers où il y a un taux de suicide très élevé. On ne parle pas de tous ces dommages collatéraux, psychologiques et compagnie. Mais c'est pas le fruit du hasard, quoi. Enfin, tout ça, c'est parce qu'il y a bien des pressions derrière. C'est que les mecs, au bout d'un moment, ils s'en sortent plus, quoi. C'est que leur système, ils sont pas rentables, quoi. Et ils se misent tous, ils montent tous des business plans sur, par rapport aux primes, quoi. Aujourd'hui, vous allez voir un banquier pour qu'il vous prête de l'argent, il va vous commencer à vous demander que vous y envoyez la situation des aides PAC.
Ouais.
Pour lui, c'est une garantie, ça. Et moi, je me dis, ce système, un jour, il peut y avoir un blackout, ça peut complètement disparaître, quoi, en fait. Et alors, pourquoi faire monter le prix de l'alimentation ? Je suis pas complètement d'accord, parce que la loi Egalim, là, qui est en train d'arriver, là, et qu'ils en parlent fortement avec des agriculteurs qui vont faire des relevés de prix en grande surface et tout ça, ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui, celui-là qui se graisse le plus la patte dans l'histoire, c'est le distributeur.
Ben oui.
C'est le distributeur. Et ça, il faut le dire à un moment donné. Et le distributeur, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ces grandes firmes qui sont cotées en bourse, tous dans les 10 premiers du CAC 40, pas moyen de faire quelque chose, hein, pour qu'en fait, ils le rendent au consommateur et que le consommateur, il paye pas plus cher, quoi. Ouais. Pour moi, c'est assez logique, mais bon, là, c'est le pot de terre contre le pot de fer.
Et je vois que ça t'agace pas mal, ce...
Ben, ça m'agace, parce que pour moi, c'est illogique. On est rentré dans un système où, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On dit, les paysans, vous profitez des aides et tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui, un paysan, s'il n'a pas les aides, il n'est pas rentable sur sa ferme. Je veux dire, il vend ses produits à perte.
Ouais.
C'est pas normal. Mais il faut se poser la question, pourquoi la PAC est arrivée, quoi. Qui c'est qui a été un des précurseurs de la PAC? C'est peut-être des distributeurs qui ont trop fait baisser les prix et qui l'ont répercuté sur les producteurs.
Fin de la première partie d'émission consacrée à Guillaume. Dans la deuxième partie, nous visiterons la ferme des Trois Pastres. Vous pouvez retrouver cette émission et une multitude d'autres sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.